Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver cette semaine pour un podcast de géopolitique où nous allons traiter des rapports entre la guerre et l'eau. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflits en kiosque et sur notre site internet, site sur lequel vous pouvez acquérir les anciens numéros de Conflits en format numérique et en format papier. Notre dossier actuel est consacré à la géopolitique de la peur et donc vous pouvez également le retrouver dans les kiosques. Les rapports entre la guerre et l'eau, c'est un sujet qui est effectivement très important parce que c'est un truisme, une banalité, mais encore faut-il en prendre conscience de le dire que l'être humain ne peut pas vivre sans eau, à la fois pour s'alimenter, pour vivre, mais aussi, comme nous allons le voir, pour des questions énergétiques. L'eau a toujours servi l'énergie, que ce soit des premiers moulins. Aujourd'hui, l'industrie nucléaire vit grâce à l'eau, l'agriculture, bien évidemment. Et donc, l'accès à l'eau est une chose essentielle pour l'ensemble des activités humaines. Pour en parler, je reçois cette semaine Franck Galland. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflits. Vous êtes ancien directeur de la Sûreté de Suez. Vous dirigez aujourd'hui le cabinet d'ingénierie conseil ES2 et vous êtes également expert eau auprès du ministère des Armées et vous venez de publier aux éditions Robert Laffont Guerre et eau, l'eau, enjeu stratégique des conflits modernes. Toutes les références du livre sont, comme chaque semaine, à retrouver sur le site internet de Conflits. Alors, le sous-titre de votre ouvrage évoque l'eau comme élément essentiel des conflits modernes, mais dans votre livre, vous remontez assez loin, il y a au moins un siècle. Et je veux dire que c'était assez original, parce que quand on pense à l'eau, on pense peut-être au conflit d'aujourd'hui, on y reviendra, évidemment, notamment au Moyen-Orient, la question turque avec la Jordanie, il y a aujourd'hui la question du Nil avec le barrage et le rapport entre le Soudan et l'Égypte, bien évidemment, mais vous expliquez que la question aquatique, ou de l'eau donc, est présente dès la Première Guerre mondiale, et qu'elle est aussi un enjeu de cette guerre, chose que l'on n'a pas forcément en tête quand on pense au premier conflit mondial.
Alors, quand les forces françaises partent en guerre, on n'a pas mis l'eau au cœur de la manœuvre militaire. Et c'est fort dommage parce que, je dirais, malheureusement, on apprend qu'en marchant, le feu a tué, balles, éclats d'obus, mais beaucoup de nos soldats vont être mis hors de combat à cause de maladies hydriques. À travers les recherches que j'ai pu effectuer, je me suis notamment aperçu qu'entre septembre 1914 et mai 1915, on a dénombré par exemple 65 000 cas de fièvre typhoïde. Sans compter effectivement les problématiques de choléra, de dysenterie bacillaire ou autre. Donc des dizaines de milliers de soldats ont été mis hors de combat, blessés, et certains sont décédés à cause de ce manque d'accès à l'eau saine. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'eau n'a pas été pensée stratégiquement comme élément de la manœuvre militaire sur les premiers mois de la guerre de 14. Et il faut en urgence avoir recours à des talents humains que sont deux ingénieurs polytechniciens qui ont respectivement 55 et 56 ans en 1914. Le premier, c'est Alphonse Colmédage. Il est ingénieur en charge de l'hygiène de l'eau à la ville de Paris. Il est mobilisé et il va créer le service des eaux des armées en mai 1915. Donc entre effectivement août 14 et mai 1915, la manœuvre de l'eau au soutien de la manœuvre militaire est complètement désorganisée. Alors ensuite, en pleine bataille de Verdun, alors que les cadavres s'amoncellent, il est fou en 2021 de découvrir qu'on avait jusqu'à 300 cadavres humain par kilomètre carré, si vous ajoutiez à cela pas loin de 400-500 cadavres d'animaux, ces situations faisaient que malheureusement les eaux souterraines étaient polluées, étaient souillées, donc inutilisables pour nos soldats. Et donc en pleine bataille de Verdun, alors que les forces françaises s'accrochent, la manœuvre de l'eau, là aussi, n'est pas pensée, n'est pas organisée, et il faut tout le talent d'un autre ingénieur polytechnicien qui a rejoint les forces françaises en 1914, qui est Philippe Bunau-Varilla, et qui va inventer un processus qui restera sous le nom de verdanisation. C'est ce qu'on appelle de la javelisation imperceptible, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte de purifier l'eau nécessaire à nos soldats par ajout de chlore, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il diminue l'ajout de chlore d'environ 90%. Et bah, ce procédé, de 16 jusqu'à la fin de la guerre, va permettre enfin de remettre l'alimentation en eau de nos soldats au cœur de la stratégie de nos armées, s'inspirant en cela d'ailleurs de ce que font déjà les armées alliées, armée américaine qui intervient à partir de 17, et surtout l'armée britannique qui dès 14, avec la British Expeditionary Force, intègre des géologues militaires par exemple dans le déploiement de ses troupes pour faire des forages, pour pouvoir caractériser des eaux souterraines et pour pouvoir organiser la manœuvre de l'eau. Donc nous entrons en guerre en retard sur le sujet. Il faut savoir, par exemple, ce n'est uniquement en avril 1915 qu'est créé un sous-secrétaire d'État au service de santé des armées. Mais au fur et à mesure des mois de conflit, l'armée française s'organise permet de délivrer cette eau essentielle pour le combat de nos soldats et essentielle aussi aux animaux, que ce soit des chenilles et surtout des chevaux, encore très très utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Alors ça c'est valable sur le front de l'Ouest, mais on retrouve la même situation sur le front de l'Est, hein, dans les Dardanelles.
Ça c'est le cas le plus connu, parce que beaucoup de soldats sont morts de la dysenterie et de problèmes gastriques.
Alors oui, au théâtre d'opérations extérieures, et effectivement, ils sont confrontés aux dures réalités d'une eau rare, déjà, et d'une eau impropre à la consommation. Mais il est très intéressant de voir là aussi l'apport de l'armée britannique qui, en pleine marche dans le Sinaï, pour pouvoir reconquérir les territoires perdus qui avaient été occupés par l'armée ottomane, à chaque mètre gagné dans le sable, il pose des lignes de chemin de fer et des conduites d'éduction d'eau. Et ce qui fait que quand l'armée britannique arrive à Jérusalem un peu avant Noël 1917, l'armée britannique se rend compte qu'il faut apporter de l'eau à Jérusalem de façon à permettre de rompre avec des années d'incurie ottomane. Et 6 mois après, à force de travaux d'ingénierie, de prouesses techniques, eh bien, l'eau coula à Jérusalem, un 18 juin 1918, un certain 18 juin, depuis le bassin d'Aroub, effectivement, 1600 mètres cubes jour, permettent à la population de Jérusalem d'avoir de l'eau. Donc l'armée britannique a été jusqu'à pousser l'alimentation en eau de ses troupes au cœur d'une stratégie de déploiement, au cœur d'une stratégie de stationnement, mais également à penser l'eau comme un moyen de stabilisation des populations et un moyen d'apport et de développement pour les populations. Retrouvant en cela ce que Lyautey avait parfaitement fait au Maroc. Lyautey disait « gouverner, c'est pleuvoir », et je pense que sa formule résumait en cela ce qu'il a su faire ensuite avec ses sections spéciales qui intégraient beaucoup d'ingénieurs, des eaux et forêts, et qui étaient destinées à gagner la guerre par des projets de développement. Il disait toujours qu'il vaut mieux un bon chantier qu'un bataillon. Je pense qu'il n'avait pas tort, et sa manœuvre avant 14 et entre les deux guerres ont permis effectivement au Maroc d'entrer dans la modernité au niveau de ses infrastructures. Et d'ailleurs, on retrouve jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'engagement français de l'armée française dans la bande saharo-sahélienne, cette logique de gagner la guerre sur le terrain, mais aussi d'aller vers des projets de développement, et dans ce domaine, l'eau est un fabuleux vecteur de stabilisation, puisque l'eau participe effectivement aux forces déployées, à leur bien-être, à leurs besoins fondamentaux, leurs besoins d'hygiène, cette eau et ces nouvelles infrastructures peuvent bénéficier aux populations.
Ce que vous souvenez dans votre propos, enfin, le problème de l'eau, c'est qu'elle est compliquée à transporter il faut des citernes, et le problème, c'est qu'elles se corrompent facilement. Donc effectivement, il faut veiller à ce qu'elle reste pure. Donc vous avez souligné les méthodes qui ont été mises en place pour la purifier. Contrairement à l'alimentation, on a assez rapidement réussi dans l'armée à faire des gâteaux secs ou des produits plus facilement transportables. En tout cas, l'eau, est, par sa liquidité même, est plus compliquée à transporter. Et l'autre aspect, c'est aussi l'aspect logistique. C'est vrai que quand on regarde l'armée, notamment au Salon du Bourget, par exemple, on va s'émerveiller devant les avions, on s'émerveille devant les dernière technologie, c'est des choses très impressionnantes, mais on a parfois tendance à oublier que l'armée, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut aussi tout l'aspect logistique, donc ça va de l'habillement aux essences et à l'eau aussi, c'est aussi un aspect important, et une grande puissance militaire doit aussi gérer ces éléments. Alors c'est l'intendance, mais sans l'intendance, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de combat gagné.
Mais vous avez entièrement raison, je me souviens de ces déclarations d'un général qui commandait le corps des Marines, qui faisait un peu le bilan de l'intervention américaine en Afghanistan, et qui disait 45% de la charge logistique du corps des Marines en Afghanistan, c'était l'eau, c'était les bouteilles d'eau. C'est pas les munitions, c'était pas autre chose, c'était les bouteilles d'eau. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu pour des armées qui se déploient dans des zones confrontées à la rareté de la ressource, des zones désertiques, ou des zones qui n'ont pas investi suffisamment dans des capacités de production et de distribution d'eau, c'est d'avoir une autonomie en matière de production et d'alimentation en eau. Et cette autonomie passe par la maîtrise des forages. Et l'armée française a dû réapprendre récemment à superviser des travaux de forage. Faire des forages dans le métier de l'eau
est un... Sahara, donc.
Alors, effectivement, dans la bande saharo-sahélienne, mais pas que, en Jordanie notamment, pour qu'une force soit déployée, il faut absolument qu'elle tienne sa ressource, qu'elle protège sa ressource, y compris contre des actes malveillants. Donc il faut qu'elle tienne soit une ressource de surface, mais bon, dans ces pays quasi désertiques, les ressources de surface, comme les fleuves, les rivières, n'existent pas, ou n'existent plus. Et donc, l'essentiel de la stratégie tient à identifier, à sécuriser les eaux souterraines, à faire en sorte que cette eau soit extraite, elle soit traitée sur place, et pourquoi pas embouteillée. Vous avez des armées allemandes, par exemple, en Afghanistan, l'armée britannique en Irak, extrayait son eau souterraine et la mettait en bouteille à travers des conteneurs 20 pieds, des machines d'embouteillage en conteneurs, et ce qui fait qu'il ne dépendait plus d'importations externes, de minéraliers qui vendent d'ailleurs très très cher l'euro profitant de la situation, et puis des problématiques de coûts de déploiement, de longueur de déploiement, et l'essentiel pour faire la guerre dans ce type de zone, aujourd'hui et encore plus demain, puisque nos armées, les armées alliées seront obligées d'intervenir soit après désastre, soit dans des zones soumis à guerre de haute intensité, où par définition les infrastructures en eau ont été ciblées, soit directement, ou soit font l'objet de dégâts collatéraux. Donc on ne peut pas compter sur les infrastructures en eau civiles. Donc il faut se débrouiller par soi-même, et pour faire cela, effectivement, il faut maîtriser le forage, soit pour le construire, soit pour superviser des travaux de forage, qui sont généralement sous-traités des entreprises spécialisées.
Vous évoquez les infrastructures, le fait qu'on ait de l'eau courante aujourd'hui, chose de normal, on prend la douche le matin, on prend un verre d'eau, c'est pourtant assez extrêmement récent dans l'histoire de l'Europe, puisqu'il y a un siècle, en 1921, il y avait encore peu d'endroits en France où il y avait l'eau courante, dans les grandes villes bien sûr, mais à la campagne, beaucoup d'endroits, il n'y a pas encore l'eau courante, donc ce fait de société, ce fait de civilisation aujourd'hui est normal alors que nos aïeux ont longtemps vécu sans eau courante. Et donc ça renvoie à la question des infrastructures, on aura l'occasion d'y revenir. Et ça renvoie aussi à la question liée à la guerre urbaine en ville. Là aussi, on sait que dès l'époque médiévale, il y a une règle de guerre qui dit qu'on ne doit pas empoisonner les puits. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas respecté, évidemment. C'est extrêmement tentant d'empoisonner un puits pour prendre une ville. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi un sujet, un risque? On a parlé du risque terroriste, ça pourrait peut-être être une tentation pour certains que d'empoisonner un puits et empoisonner les puits de Paris ou les puits de New York et ainsi de faire beaucoup de dégâts humains et de tenir une ville.
Alors, on parlait tout à l'heure de la Première Guerre mondiale, il est clair qu'on part en guerre et on fait la guerre sans eau quasiment. Alors après, on se réadapte, on réintègre l'eau dans la manœuvre militaire. De 45 à nos jours, jusqu'à l'occupation récente par Daesh des barrages sur le Tigre et l'Euphrate, on a fait la guerre contre l'eau. Et vous avez raison de souligner que malheureusement, les guerres révolutionnaires, des guerres du faible au fort, des guerres asymétriques, ont eu pour conséquence soit de détruire des digues, donc ennoyer l'adversaire, soit de polluer des puits. Alors effectivement, quand on remonte à l'Antiquité, ce sont des techniques qui étaient usitées. Thucydide parlait par exemple de la peste d'Athènes en 430 avant Jésus-Christ, et il était très clair que à l'époque les Athéniens accusaient Sparte d'avoir pollué leur réservoir. Saladin en 1186 polluait systématiquement les puits maronites qui venaient comment dire, en soutien des croisés. Encore une fois, la pollution intentionnelle, si on veut être innovant, on se trompe complètement, parce que c'est des choses qui ont toujours été utilisées, jusque la fin de la Première Guerre mondiale, quand les forces allemandes se retirent, effectivement, on a une politique, position Alberich, politique de la terre brûlée, donc destruction d'infrastructures, pollution, effectivement, des réseaux, pollution des puits, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, bah, c'est une menace non nouvelle, mais c'est une menace qui effectivement inquiète, mais c'est une menace sur laquelle, en zone urbaine, les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, travaillent, j'allais dire, énormément et discrètement et efficacement. Alors ils le fondent sur ces logiques d'anticipation et de réponse, à travers la protection des ouvrages, notamment des ouvrages de stockage, avant que l'eau soit distribuée aux consommateurs, à travers des moyens de surveillance, en temps réel, du réseau, à travers des moyens de surveillance qui permettent de suivre la qualité d'eau avant distribution.
S'il y a les pollués, il y a des capteurs qui vont l'indiquer, on peut intervenir.
À l'heure du big data, oui, vous avez de plus en plus de capteurs capables de détecter une anomalie, quasi en temps réel. Reste à savoir la source de la pollution et la nature de la pollution. Ça vient dans un deuxième temps. Mais déjà, ça permet de lancer une alerte à la population en disant ne consommez pas cette eau. Et d'un point de vue accidentel, il se passe pas un mois sans qu'on ait un problème dans l'Hexagone sur une qualité d'eau. En zone campagne, en zone périurbaine ou en zone urbaine, dû à un accident, dû à un retour d'eau, d'une eau jugée par l'ARS impropre à la consommation.
Peut-être les orages aussi, les qui polluent, les eaux ou autre.
Problématique d'inondation, de turbidité. Donc ça, c'est habituel pour le métier d'exploitant. Ce qui est inhabituel, c'est ce qu'on connaît depuis le 11 septembre 2001, c'est le risque que fait poser le terrorisme islamiste radical sur l'alimentation en eau potable. Mais le terrorisme islamiste, mais pas que. Des actes de malveillance urbaine issus de l'extrême gauche radicale ciblent énormément en ce moment les réseaux télécoms. Ont ciblé des réseaux électriques, ont ciblé des réseaux ferroviaires. Rappelez-vous le groupe de Tarmac. Quand on lit la littérature que ces gens-là produisent, eh bien effectivement, les systèmes d'alimentation en eau peuvent être potentiellement une cible. D'accord. Mais comme on a eu des mouvements d'extrême droite sud-africains en pleine apartheid qui ont voulu cibler les townships de Soweto avec des polluants destinés à polluer du stockage. Bon. Donc c'est pas nouveau. C'est une menace à prendre en compte, comme la menace cyber, hein, la menace cyber qui vient impacter des systèmes d'information industrielle nécessaires à produire et distribuer de l'eau. Bah, on l'a vu il y a 6 semaines en Floride, où on a une usine qui a fait l'objet d'une cyberattaque, et effectivement, il y a eu une modification des paramètres de traitement. En pleine crise Covid, le National Water Carrier israélien, c'est-à-dire c'est un grand canal qui permet de prendre de l'eau brute du lac de Tibériade et qui la redescend sur le sud d'Israël, a fait l'objet d'une cyberattaque. Donc, je dirais, toutes les menaces aujourd'hui que la société connaît peuvent malheureusement s'exprimer sur des systèmes d'alimentation en eau potable, mais les opérateurs, dans leur très très grande majorité, veillent en matière d'anticipation et de réponse, et les services de l'État français ont très tôt, au lendemain du 11 septembre, pris conscience de l'importance stratégique de l'eau et ont imposé beaucoup de règles et de réglementations à ces grands opérateurs. Et même chose au niveau européen, aujourd'hui on le voit à travers par exemple une directive liée aux services essentiels en matière de cybersécurité, L'eau fait partie de cette directive NIS, destinée à protéger les systèmes d'information qui concourent aux services essentiels de transport, bancaire, électrique, eau potable, et demain, potentiellement, assainissement. Donc, voilà, là où la menace est présente, la réponse s'organise. Alors, le douanier a toujours un peu de retard par rapport au contrebandier, mais finit toujours par l'arrêter.
L'autre aspect de l'infrastructure, c'est leur entretien. Ça coûte très cher. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, il y avait une sécheresse importante à Rome, et donc la ville de Rome était privée d'eau. Et on s'est rendu compte à cette occasion-là que par défaut d'entretien, il y avait énormément de pertes. La ville de Rome estimait à 45% les pertes en eau. À Paris, on était à moins de 4%, donc ça montre le différentiel. Ça veut dire que pour une municipalité, pour un pays, c'est évidemment un coût, mais enfin, c'est un coût d'investissement. Et là aussi, il y a un gros travail à faire dans la mise à norme, la mise à jour, l'entretien de ces canalisations.
Bah, le problème de l'eau, c'est que ça se voit pas. On part du principe qu'on ouvre un robinet, que ça coule de source. Derrière l'eau, vous avez un savoir-faire technique, humain exceptionnel, voire technologique. Effectivement, une conduite, elle est enterrée. Alors, on voit éventuellement l'usine. Même si les usines sont assez discrètes, généralement, mais pas une usine en centre-ville. Le château d'eau, on le voit, parce qu'il est généralement en hauteur. Mais bon, vous avez beaucoup de réservoirs enterrés, semi-enterrés. Donc, ça ne se voit pas, l'eau. Mais par contre, il faut que nos auditeurs le sachent, l'eau a un coût. Il faut absolument que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire quand on paye une facture d'eau, bah, effectivement, on paye un mètre cube. Alors en France, vous êtes en gros, en moyenne, à 3,56 € le mètre cube. Alors ça diffère en fonction de votre lieu d'habitation, ville, campagne, région, etc. Mais il faut savoir qu'on est vraiment dans la moyenne européenne, que ce prix est quasiment multiplié par deux au Danemark ou en Allemagne, et que derrière ce prix, il y a le renouvellement des réseaux, dont vous parliez tout à l'heure, il y a leur entretien au sens large, il y a le suivi de la qualité d'eau dont on parlait, quand on met des capteurs sur des réseaux pour être certain que la qualité d'eau soit distribuée jusqu'au robinet du consommateur, bah voilà, c'est payé par ce prix au mètre cube, que paye tout un chacun, et ça, l'eau gratuite, c'est une, pour moi, une vue de l'esprit, c'est-à-dire que il faut que le consommateur sache que derrière l'eau qu'il a la chance d'avoir, au robinet, ben, il y a toute une ingénierie, tout un savoir-faire qui nécessite une rémunération, une juste rémunération, mais il faut une rémunération, parce que si vous ne payez pas l'eau, ben, vous n'avez pas de budget d'investissement en maintenance préventive ou en maintenance corrective de l'infrastructure, et puis un jour, bah, effectivement, vous n'avez plus d'eau, ou vous avez une eau complètement dégradée, parce que les choses n'ont pas été faites en termes d'investissement, et ça, vous pouvez arriver à des situations dramatiques. Vous parliez tout à l'heure de Rome, il y a un autre exemple éminemment parlant, qui est celui, par exemple, du Cap. Donc là, on est quand même sur la deuxième ville d'Afrique du Sud, et au Cap, qui dépendait il y a encore 2-3 ans uniquement de retenue de stockage, donc de barrage, eh bien, conséquence du changement climatique, il n'avait pas plu. On avait des niveaux de réservoirs de barrage qui étaient en gros entre 15 et 30% de leur capacité. Et à partir de mi-2018, on était aux alentours de mai 2018, eh bien, le Cap a expérimenté son jour zéro, son day zero, où le Cap a commencé à rationner l'alimentation en eau de sa population. Parce qu'il y avait eu des retards sur des infrastructures, beaucoup de retards sur une station de dessalement, notamment. Et effectivement, bah, le Cap, c'est quand même 500 000 habitants intramuros, c'est 3,7 millions de personnes environ sur l'agglomération. Eh bien, c'est la police nationale sud-africaine qui a organisé la distribution, provoquant des émeutes, des bagarres, des tensions, des meurtres. C'est sud-africaine, et comme on le sait, une société très insécuritaire en plus. Et voilà où on en est arrivé. Donc le cas de Rome n'est pas étonnant, mais attendez, il y a encore 20 ans retard sur une station de dessalement à Barcelone. Pour pouvoir alimenter en eau Barcelone, on a fait venir des tankers remplis d'eau douce de Marseille. Voilà. Donc dans ce domaine, la décision politique qui n'est pas prise aujourd'hui aura des répercussions dans 5 à 10 ans. Et les décisions politiques qui n'ont pas été prises il y a 10-15 ans dans un certain nombre de pays sont dramatiques aujourd'hui. Et on a malheureusement une diagonale de la soif aujourd'hui qui s'exprime entre le nord du Maroc, qui part de Tanger jusqu'au nord-nord-est de la Chine. Alors elle traverse l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la péninsule indienne, l'Asie centrale, très très préoccupante en matière de rareté de la ressource. C'est pour ça que l'Organisation de coopération de Shanghai se pose de plus en plus des questions stratégiques de défense et de sécurité liées aux ressources en quantité et en qualité, parce qu'il y a aussi énormément de problèmes de pollution. Et puis, bah, vous arrivez sur la partie nord-nord-est de la Chine, où vous avez 45% de la population chinoise, mais uniquement 15% des ressources en eau disponibles de la Chine. Donc, dans tous ces pays, certains ont fait le choix de l'investissement fort, et arrivent, malgré les conditions, malgré les conséquences du changement climatique, à continuer à produire et à distribuer une eau en quantité suffisante. Prenons par exemple Sa Majesté Hassan II. En 1967, Hassan II fait un discours à Tanger sur la nécessité de doter son pays, le Maroc, d'une infrastructure hydraulique. À l'époque, il y avait 13 barrages. Bon, 30 ans plus tard, en 97, il y a 100 barrages au Maroc. Et aujourd'hui, parce que le Maroc a eu la clairvoyance d'investir, eh bien, le Maroc est confronté à de la rareté de la ressource. C'est clair. Conséquences du changement climatique qui s'exprime.
Climat désertique, en plus.
Climat désertique. Mais le Maroc s'en sort grâce à ses infrastructures. Voilà. Et le drame aujourd'hui, si vous voulez, d'un certain nombre de pays arabo-musulmans, c'est que certains n'ont pas fait le choix de ces infrastructures. Prenez le Yémen. J'étais un des premiers à écrire que le Yémen serait sans doute l'un des premiers pays au monde à disparaître à cause d'un manque d'eau. C'était avant le conflit et son démarrage en 2015. Pourquoi? Parce que, malgré sa richesse pétrolière et gazière, rien n'était fait pour les infrastructures en eau. C'est-à-dire que vous avez une ville comme Sanaa, capitale yéménite, qui dépendait, qui n'avait plus que 200 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables. On estime que la barrière de stress hydrique est à 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables, et qu'en deçà de 500 mètres cubes, la vie n'est plus possible. Eux, il leur restait 200 mètres cubes. Pourquoi? Parce que pas d'investissement, pas de renouvellement, pas d'extension de réseau, pas de nouvelles infrastructures. Pire que ça, le Yémen, qu'on appelait quand même l'Arabie Félix, l'Arabie heureuse, l'Arabie verte. Il y a encore 30 ans, technique ancestrale d'irrigation, etc. Mais non, la drogue a tout corrompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, environ 90% des ressources en eau yéménite sont consacrées à l'agriculture, ce qui est énorme. Généralement, on est plutôt à 80% et dans les pays occidentaux à 70%. Mais sur ces 90%, la moitié est utilisée pour produire une drogue, le cat. Voilà. Donc, non seulement il n'y a pas d'eau, non seulement il n'y a pas d'investissement d'infrastructure, mais en plus, cette eau rare est utilisée pour produire une drogue. Mais on a la même chose à Medellín, par exemple, en Colombie. Vous avez effectivement une mafia de l'eau, qui est la même mafia qui produit et exporte de la cocaïne, et qui utilise le peu d'eau qu'il y a pour produire de la drogue. Même chose en Afghanistan. Bon. Et donc, tous ces pays-là, malheureusement, par défaut de gouvernance, par manque d'investissement, par manque de soutien de la communauté internationale, n'ont pas pu investir dans l'infrastructure, et pas de chance, les printemps arabes sont passés par là, les guerres civiles s'y déroulent. De très haute intensité, en tout cas pour ce qui concerne le Yémen. Et donc, le peu d'infrastructures qu'il y avait ont été détruites, ciblées directement. J'ai en tête ce qui s'est passé sur une station d'assainissement, qui était la station d'assainissement principale de Sanaa, provoquant des maladies hydriques. Enfin, vous aviez, à fin 2017, plus d'un million de personnes touchées par le choléra. Si vous en rajoutiez 400 000 à fin 2018. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous avez quasiment 20 millions de Yéménites qui n'ont pas accès à de l'eau saine. Voilà. Et ça, c'est la conséquence de 30 ans de faillite d'un État et à 5 ans de conflits de haute intensité. Mais ce qui se rencontre au Yémen, on pourrait parler par exemple de la Libye, hein, alors Kadhafi, le guide décrié à juste titre sur beaucoup d'aspects liés aux droits de l'homme, liés au soutien du terrorisme international, mais il avait une qualité, c'est qu'il avait doté son pays d'une infrastructure stratégique, qui existe encore, mais qui est de moins en moins efficiente, qui est la Grande Rivière Artificielle. La Grande Rivière Artificielle, c'est un programme de plusieurs milliards de dollars qui vise en fait à pomper de l'eau dans les extrêmes profondeurs de la nappe du Sahara septentrional, de la remonter à grand renfort d'énergie, de la transporter sur des milliers de kilomètres vers les côtes libyennes. Pour faire ça, vous avez des conduites d'environ 6 à 8 mètres de diamètre. C'est tous les jours 6,5 mètres cubes jour qui sont transportés sur des milliers de kilomètres pour alimenter les villes côtières libyennes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 80% de la production d'eau dessalée saoudienne. Les Saoudiens n'ont pas d'eau. Pour pouvoir permettre la vie, permettre leur développement économique, ils dessalent de l'eau de mer. Ils ont les premières capacités installées au monde. Ils dessalent environ 16,5 millions de mètres cubes jour. Bah, les Libyens, ils transportent de l'eau souterraine à hauteur de 6,5 millions de mètres cubes jour. C'est énorme. Sauf que, depuis le conflit qui endeuille ce pays, les conflits qui endeuillent ce pays, parce qu'ils ont été successifs, eh bien, les infrastructures ne sont plus entretenues, elles sont ciblées, elles font l'objet de sabotage, elles font l'objet de chantage, les derniers combats en date, entre notamment les, avec les troupes du maréchal Haftar, ont ciblé des infrastructures essentielles à l'alimentation en eau des populations, mais également, ce qu'on sait beaucoup moins, essentielles à l'alimentation en eau d'établissements sanitaires, comme des hôpitaux. C'est-à-dire, si vous n'avez plus d'eau, bah, un hôpital, il sert à rien. Et en pleine crise Covid, quand les hôpitaux sont ciblés, bah, le premier geste anti-Covid, c'est de se laver les mains. Donc, je parle même pas du soin aux blessés. Là, je parle des mesures d'hygiène alimentaire. Donc, on voit bien que les printemps arabes se sont déroulés dans des pays qui sont soumis à l'extrême stress hydrique, qui arrivaient pour certains à s'en sortir avec quelques gouvernants éclairés, avec une vraie stratégie dans ce domaine. Et bah, malheureusement, les conflits qui endeuillent ces pays, de la Syrie à la Libye, en passant par l'Irak, le Yémen, ont d'énormes conséquences sur les populations. Voilà, avec des infrastructures ciblées et aujourd'hui détruites.
Je vais revenir sur le dessalement, mais avant ça, ce que vous montrez, c'est que finalement, l'eau est liée au vouloir humain et au génie humain. On a des pays qui sont au niveau eau pauvres parce que c'est désertique, parce que le climat est rouge. Je pense notamment au sud de l'Espagne avec l'Andalousie, avec une tradition très ancienne de d'irrigation. Et puis il y a des pays qui regorgent d'eau, c'est le cas notamment des pays tropicaux. Et pour autant, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau pour se laver ou pour l'agriculture. Donc la question de l'eau n'est pas tant une question de ressources présentes qu'une question de l'usage que l'on arrive à faire d'une ressource et qu'on peut démultiplier ou au contraire extrêmement affaiblir.
Vous avez entièrement raison. L'eau est une question de volonté politique, une question d'investissement derrière. Le plus bel exemple, prenons l'état de Singapour. Singapour, quand Singapour devient indépendant en 1960, il dépend à 100% d'une conduite d'alimentation en eau qui vient de Malaisie. Bon, le grand état musulman, vu comme à la fois un allié mais une menace, y compris pour des raisons terroristes. En 2002, la Jamaa Ismailia a voulu cibler cette conduite. Bon, Singapour, avec le leader éclairé qui était Lee Kuan Yew, s'est dit il faut absolument que Singapour soit autonome en eau. Donc les Singapouriens se sont lancés à corps perdu dans la technologie. Et en 2060, un siècle après leur indépendance, donc c'est pas demain matin, mais les projections montrent que Singapour sera indépendant en eau. Grâce à quoi? Grâce à la réutilisation des eaux usées. En 2060, 50% des eaux usées, les ressources de Singapour viendront du recyclage des eaux usées. 25% viendront du dessalement et 25% viendront des eaux souterraines ou des eaux de surface utilisées. Donc, ça veut dire que en 2060, Singapour n'aura plus besoin de cette conduite d'alimentation stratégique qui venait de Malaisie. Donc voilà un État qui est vraiment un État modèle dans ce domaine, qui a tout misé sur la technologie et qui a réussi ce beau pari. Prenons l'État d'Israël. L'État d'Israël, l'invasion du sud Liban en 1979 s'appelait Opération Litanie parce que l'objectif était d'aller jusqu'aux Litanies, parce que les créateurs de l'État d'Israël avaient pensé, ont toujours pensé qu'une vie durable en Israël ne serait possible que si on intégrait le Litanie. Bon, en d'autres termes, Israël rentrait en guerre il y a encore 40 ans à cause de l'eau. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Parce qu'Israël, grâce au miracle de la technologie, est quasiment excédentaire en eau. En termes de dessalement, elle a des capacités installées qui sont parmi les plus grandes du monde, et en termes de réutilisation des eaux usées. Israël est le champion du monde incontesté en matière de réutilisation des eaux usées. 87% de leurs eaux sont recyclées et réintégrer en cycle fermé, pardon, pour arroser des espaces verts, pour les besoins de l'agriculture, etc. Là où nous, en France, on traite les eaux usées et on les rend propres à la nature, eh bien, eux les traitent et immédiatement les réinjectent en circuit fermé, y compris à des fins d'usage de consommation humaine. Donc voilà, par exemple, deux pays, Israël et Singapour, qui, par une forte volonté politique et le recours à la technologie et au savoir-faire humain, s'en sortent admirablement. Puis à l'inverse, vous avez des pays qui ont énormément d'eau. Alors prenons le cas du Brésil, par exemple. Le Brésil, le problème, c'est que 50% de l'alimentation en eau brésilienne vient de l'Amazone, mais sur les rives de l'Amazone, ne vit que 4% de la population brésilienne. 45% de la population brésilienne vit dans des zones extrêmement denses, zones urbaines.
Ville, Rio.
Voilà. Alors, et je vais vous parler du cas de Sao Paulo, qui est à mon avis emblématique, puisque à Sao Paulo, 2012-2015, sécheresse. On commence l'année 2015 avec, en gros, 5% du barrage, du premier barrage essentiel à l'alimentation en eau de Sao Paulo, qui est effectivement, qui est plein. 5% par rapport aux autres années. Et donc, voilà comment une ville de 12,3 millions d'habitants a dû organiser du rationnement. Et on voit bien aujourd'hui, en pleine crise Covid, que Sao Paulo est sans doute un des viviers, un des fiefs de la pandémie mondiale. Ça va pas du tout. Manque de bouteilles d'oxygène, manque de capacité vaccinatoire, manque de lits d'hôpitaux, etc. Donc voilà, une ville dans le domaine de l'eau qui, on pourrait se dire, a tout un tas d'atouts, parce que le Brésil est un véritable château d'eau, et cette ville manque d'eau. Donc là aussi, problème de planification urbaine, problème d'investissement, problème de gouvernance, problème de choix, en termes de maintenance préventive et curative.
Donc ce que vous montrez, c'est que l'eau tombe du ciel, certes, mais pour pouvoir la consommer, il faut à la fois une volonté, il faut des infrastructures, il faut aussi mettre les moyens financiers nécessaires. Alors vous avez évoqué plusieurs fois le dessalement, on va y revenir, parce que c'est un sujet qui fait un peu rêver. La grosse partie de la population mondiale vit au bord du littoral, donc si on arrive à dessaler l'eau de mer, on se dit qu'on pourra avoir des usines sur le littoral, voire même dans la mer. Il y a maintenant des bateaux qui dessalent l'eau de mer et qui pourront ainsi abreuver quasiment de façon infinie la population. Donc ça résout tous les problèmes.
Alors oui et non. Oui et non. Déjà, le dessalement coûte cher en termes d'infrastructures, en termes de maintenance de ces infrastructures. Il est très énergivore. Alors de moins en moins, mais il faut quand même, pour produire un mètre cube d'eau dessalée, environ 2 kWh aujourd'hui. C'était 15 kWh il y a encore 30 ans. Hein. Bon. Tout ça parce que vous avez des processus de plus en plus d'osmose inverse avec des membranes.
C'est par filtration qu'on enlève le sel?
Alors voilà, c'est ça. On va passer de l'eau de mer dans une membrane à très haute pression et effectivement on va séparer les impuretés de sel d'une eau qui est quasiment déminéralisée, qu'il va falloir reminéraliser pour la rendre entre guillemets consommable. Le problème c'est que pour pouvoir faire ça, ben, ça coûte effectivement cher. C'est de l'énergie, et qu'est-ce qu'on fait du sel? Donc le sel, ce qu'on appelle les saumures, bah, sont renvoyés dans la mer, ce qui détruit les écosystèmes, augmente la température de l'eau de mer, donc c'est pas si simple. Mais il est clair que des pays aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, première puissance installée au monde en termes de capacité de dessalement, mais prenons le Qatar, par exemple. Le Qatar, c'est le premier pays par habitant de la planète devant le Liechtenstein. Le Qatar dépend à 99% du dessalement pour son eau de mer. Quoi, pour son alimentation en eau. Donc, dépend de l'eau de mer pour son alimentation en eau. 99%, c'est énorme. Et le Qatar n'est pas à l'abri, je le montre dans ce livre, d'un accident. Une pollution de l'eau de mer, intentionnelle ou accidentelle. Pollution hydrocarbures, ça s'est vu lors de la première guerre du Golfe, avec Saddam Hussein qui avait eu la bonne idée de provoquer des marées noires de façon à porter atteinte aux stations de dessalement saoudiennes qui étaient sur la côte est de la mer d'Arabie. Mais pour revenir à ce Qatar, même un problème de cybersécurité, avec ces deux stations de dessalement en panne, eh bien le Qatar n'aurait plus d'eau. Et c'est pour ça que le Qatar s'est lancé dans une course au gigantisme. Ils sont en train de faire sortir de terre les plus grands réservoirs construit de la main de l'homme au monde pour stocker de l'eau d'urgence, pour permettre, en cas de problème sur les stations de dessalement, d'avoir quelques jours supplémentaires de façon à résoudre les problèmes techniques rencontrés. Et donc, on parle de 10 millions de mètres cubes. emprisonnés dans d'immenses méga réservoirs. Pour vous donner un ordre d'idée, les plus grands réservoirs au monde aujourd'hui inscrits au Guinness Book, ils sont à 2 millions de mètres cubes. Donc là, les Qatariens font 5 fois plus. Et ces réservoirs sont sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite, les réservoirs de Briman. Donc, on a véritablement, voilà, une solution des Salmans, mais cette solution n'est pas unique. La réutilisation des eaux usées a un énorme avenir. La recharge artificielle de nappes a un énorme avenir. Donc la technologie peut permettre de se sortir de ces situations très compliquées. Mais encore une fois, une décision prise aujourd'hui, on en voit les effets dans 10 ans. Parce qu'une station de dessalement, ça sort pas de terre comme ça. Pareil pour une station de réutilisation des eaux usées, il faut de l'infrastructure visible, l'infrastructure enterrée. Et quand les gouvernants ont cette clairvoyance, les moyens financiers pour répondre à leurs objectifs politiques, les choses se font, et se font bien. Quand à l'inverse, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de vision, il y a de l'instabilité, eh bien, c'est une descente aux enfers. Et on voit d'ailleurs une forte corrélation entre l'instabilité hydrique, l'instabilité ou l'insécurité alimentaire, les foyers de terrorisme, tout est lié. Voilà. Là où vous avez des zones urbaines, des banlieues sans réseau de vie, se crée la frustration, se crée la révolte. Si la religion se mêle, l'islamisme radical apporte des solutions, tente d'apporter des solutions, c'est toute la stratégie des frères musulmans, par exemple, hein, qui ont investi le champ de l'eau dans les banlieues du Caire, ont investi le champ des denrées alimentaires dans les banlieues du Caire, et ont su gagner les cœurs et les âmes, jusqu'à provoquer effectivement l'élection d'un président frère musulman, la personne de Mohamed Morsi, avant l'arrivée du maréchal Sissi. Donc voilà, les sujets de sécurité, y compris énergétiques, sont liés à l'insécurité hydrique.
Et ça suppose aussi d'avoir des gens qui maîtrisent ces métiers, qui sont extrêmement complexes, les ingénieurs hydrauliques et autres, d'avoir également des entreprises. En France, il y a Suez et Veolia. Quelles sont les autres grandes entreprises mondiales dans le domaine de l'eau?
Alors, ces grandes entreprises mondiales ne sont pas que françaises. Il faudrait qu'on arrête un peu de regarder notre nombril et qu'on arrive enfin à créer un champion mondial, la puissance sénégalaise dans le domaine de l'eau, parce que la concurrence, elle est réelle. La concurrence, elle est coréenne, elle est espagnole, elle est israélienne, elle est chinoise, et de plus en plus chinoise. Aujourd'hui, vous avez des champions nationaux chinois, comme ce que les Chinois ont su faire dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine du spatial aujourd'hui. Eh bien, vous avez des entreprises, prenons par exemple Beijing Enterprises Water Group, c'est aujourd'hui 3,1 milliards de chiffre d'affaires. C'est l'entreprise chinoise qui non seulement répond aux demande et aux problèmes d'eau en Chine, mais exporte son savoir-faire. Ils ont racheté à Veolia en 2013 Aguas de Portugal. Bon, s'ils ont racheté Aguas de Portugal, c'était pas que pour des contrats existants au Portugal. C'était que Aguas de Portugal, à l'époque, faisait beaucoup de contrats en Afrique lusophone, au Mozambique, en Angola. Et Mozambique et Angola intéressent la diplomatie chinoise, la puissance économique chinoise. Donc ce mouvement a eu un vrai intérêt stratégique, mais on trouve Beijing Enterprises Water Group ailleurs, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc demain, les grands groupes privés actifs dans le domaine de l'eau seront chinois, coréens, israéliens, en tout cas la concurrence sera mondiale. Mais il faut savoir que par exemple, le marché de l'eau à l'international est de très très loin un marché qui est public. Prenons les États-Unis, le centre du libéralisme, de l'initiative privée, 86% des villes américaines sont distribuées par des régies publiques. Et c'est 98% dans le domaine de l'assainissement. C'est 86% dans le domaine de l'eau, 98% dans le domaine de l'assainissement. C'est-à-dire les opérateurs privés n'existent pas quasiment aux États-Unis. Il y a un grand groupe qui est American Water Works, il y en a un deuxième qui appartient à Suez qui s'appelle United Water, mais c'est peu. Donc en fait, le marché mondial de l'eau, des grands groupes privés, il est pas si important que ça. En France, c'est l'inverse, c'est 80% du marché national est privé, mais ceci dit, les régies prennent de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, toutes les grandes métropoles françaises basculent en régie, parce que derrière, vous avez un discours politique, vous avez beaucoup d'idéologie derrière tout ça, Et donc les opérateurs privés se font chasser de grandes métropoles, récemment Paris, Bordeaux, exemple. Alors c'était, ça a commencé par Paris, récemment ça a été Bordeaux, et le Grand Lyon, qui a fait part à Veolia de son souhait de terminer effectivement son contrat, à la fin de son contrat. Donc voilà, donc la concurrence, elle est vive, elle est drivée par l'innovation. On voit bien que la technologie est une solution au problème d'eau d'aujourd'hui et de demain. Et pour ça, il faut toujours avoir une avance technologique. Donc il faut, à mon sens, effectivement, favoriser des solutions de champions nationaux, voire de solutions européennes, pour pouvoir effectivement peser demain sur le marché de l'eau qui ne fait que commencer. Puisque les enjeux, vous avez 3,5 milliards de personnes qui vont vivre à horizon 2030 dans des zones soumises à extrême stress hydrique, vous avez aujourd'hui 2,1 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est-à-dire, ça inclut des personnes qui vivent en zone désertique, comme des personnes qui vivent typiquement au Brésil, où il y a de l'eau, mais où l'absence d'infrastructures, l'absence d'investissements font que l'eau n'est pas rendue potable à la population.
Bien, merci beaucoup, Franck Galland, d'avoir évoqué ces rapports et enjeux de guerre et de l'eau. Je rappelle votre ouvrage paru chez Robert Laffont, Guerre et eau, l'eau, enjeux stratégiques des conflits modernes, dont les références sont à retrouver sur le site de Conflit, site sur lequel vous pouvez également retrouver nos anciens numéros et les commander en format numérique et en format papier. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Géopolitique.